Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Christelle Yessot.
7 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le journal sur Radio de la Paix. Tout de suite, les titres. Candidature à la présidence du PDCI RDA. Après la conférence de presse du candidat Maurice Kakou-Guikaoué, la direction du parti n'a pas tardé à réagir par la voix de son porte-parole. Bredoumé Soumaïla Kouassi affirme qu'aucune candidature n'a été rejetée. Des détails dans cette édition. Face à la menace de grève brandie par les agents des collectivités décentralisées, la Direction générale de la décentralisation et du développement local appelle à la retenue et à la patience. Le conseil technique du directeur général affirme que c'est un processus qui est en cours pour combler un vide juridique. Dans cette édition, les précisions de Seyi Léocadi, épouse Komoué. Et au Sénégal, le tribunal reporte sa décision sur la légitimité ou non de la radiation de Sonko Deliste. Et nous refermerons ce journal avec l'invité de la rédaction, professeur Diabaté Alassane, maître de conférence au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous en dit plus sur le colloque international transdisciplinaire qui aura lieu très prochainement à Yamoussoukro et ce sera dans quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous, nous ouvrons ce journal par une page politique. Le porte-parole du PDCI RDA était face à la presse hier, mardi 12 décembre. Bredoumé Soumaïla Kouassi s'est exprimé sur trois sujets essentiels, à savoir la sortie de Maurice Kakou-Guikaoué, l'organisation pratique du congrès électif et les dernières déclarations des cadres du RHDP. On en sait plus avec Jean-Mélène Bitti.
Concernant la candidature de Maurice Kakou-Guikaoué, Bredoumé Soumaïla Kouassi, porte-parole du PDCI, fait des précisions.
La direction du parti s'interroge sur le motif des déclarations dans toute la presse de la direction de campagne de M. Kakou-Guikaoué faisant allégation du rejet de sa candidature. La direction du PDCI RDA n'a produit aucun communiqué ni déclaration portant rejet d'une quelconque candidature. La direction du parti a convoqué tous les 5 candidats le lundi 11 décembre pour une ultime rencontre avant de clore le dossier sur les négociations. Tous ont répondu à l'appel sauf le candidat Maurice Kakou-Guikaoué.
Quelles seront les dispositions pratiques pour ce congrès et sur le nombre des participants? Le porte-parole du PDCI, Bredoumé Soumaïla Kouassi.
Au niveau des congressistes, le comité d'organisation a enregistré au total 6255 congressistes. Les congressistes seront appelés à s'exprimer dans les urnes. Les urnes seront réparties dans 10 zones. Chaque zone dispose de plusieurs bureaux de vote. Le nombre de bureaux de vote varie selon le nombre de votants.
Après les propos tenus par les responsables du RHDP le week-end dernier, Bredoumé Soumaïla Kouassi est clair. Le PDCI ne se laissera pas intimider.
Le PDCI RDA déplore les déclarations de M. Cissé Bakongo et Koulibaly Amadou. Leurs propos n'honorent guère leur parti et les fonctions qu'ils occupent au sein de l'appareil de l'État. La haute direction du PDCI RDA n'acceptera aucune intrusion dans le processus de succession de son défunt président.
Il est à noter que la campagne pour la présidence du PDCI débute ce mardi 12 décembre 2023 à minuit pour prendre fin le jeudi 14 décembre à 0h.
Et dans le cadre de la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les lauréats du prix national des droits de l'homme 2023 sont connus depuis le vendredi 8 décembre. Tenu autour du thème « Jeunesse, droit et engagement civique », l'orateur Zié Zako Franck Emmanuel de l'ONG OSEF et du Parlement des jeunes de Boisflay remporte le grand prix. Le compte-rendu de Matatouré.
L'orateur Zié Zako Franck Emmanuel s'est taillé la palme en se classant premier dans le trio gagnant avec un projet de formation des étudiants au concours africain de plaidoirie sur les droits de l'homme. Le deuxième prix a été décerné à l'ONG OSEF qui a attiré l'attention du jury sur la question de la précarité menstruelle. Le troisième prix a été octroyé au Parlement des jeunes de la Maraoué qui ont mené des actions afin de favoriser et faciliter la cohésion sociale dans leur région, ce qui a valu un climat social apaisé pendant les élections. Les prix ont été remis à l'occasion d'une double cérémonie de reconnaissance aux pionniers et acteurs émérites des droits de l'homme. Écoutons à ce propos la présidente du CNDH, Namizata Sangaré.
Reconnaître le mérite et les sacrifices des premières générations d'acteurs. Nous les considérons comme des modèles de leadership, d'engagement pour les autres générations et des acteurs majeurs de la construction de la nation.
Au nom des récipiendaires, Paul Badjo Ezoui, toute première présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Cette célébration qui constitue non seulement une occasion supplémentaire de promotion des droits de l'homme, mais également une plateforme qui met en lumière des visages, des noms qui, avec engagement, participent au quotidien au renforcement de l'état de droit, gage de paix sociale.
Cette double cérémonie s'inscrit dans le cadre de la Journée des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Parlons à présent sécurité routière. La 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière fait sa clôture. Après 11 mois d'activité, les acteurs du secteur se sont réunis lundi 11 décembre au siège de Lozère pour une cérémonie bilan. Junior Cardin pour plus de détails.
Il est revenu à Étienne Kouakou, conseiller technique du ministre des Transports, de faire l'historique de la Semaine nationale de la sécurité routière, non sans avoir indiqué la responsabilité de chaque citoyen face aux drames que constituent les accidents de la circulation.
Ces drames qui ont amené le gouvernement à instruire monsieur le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour accélérer et renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière.
Après 11 mois de sensibilisation, février à décembre 2023, les résultats sont encourageants, selon Baba Koné, directeur général de Lozère, office de sécurité routière.
La semaine de sensibilisation à la sécurité nous a permis vraiment de réduire de façon drastique aussi bien en nombre d'accidents qu'en nombre de tués. C'est une stratégie qu'on a adoptée de 2021 à 2025 et dans notre prétention, c'est de faire la réduction de 25% et jusqu'en 2030 aller à 50%. Mais déjà dans nos statistiques, nous sommes à 30%. Nous allons travailler pour que cette tendance baissière soit maintenue jusqu'en 2030.
Malgré ce satisfecit, des actions doivent être menées à court terme pour rassurer les populations à l'avènement de la CAN fortement attendue. Moussou Ambroise, président du conseil de gestion de Lozère.
C'est dans cette optique que seront multipliées les initiatives à travers l'ensemble du territoire en cette période de fête de fin d'année, que seront renforcées les actions de proximité dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations pour assurer aux populations des routes plus sûres.
Au terme donc de ces 11 mois d'activité, les acteurs qui œuvrent à assurer aux populations des routes plus sûres ont eu les encouragements du président du conseil de gestion de Lozère.
Et tout à fait autre chose dans ce journal, face à la menace de grève brandie par les agents des collectivités décentralisées, la Direction générale de la décentralisation et du développement local appelle à la retenue et à la patience. La conseillère technique du directeur général affirme que c'est un processus qui est en cours pour combler un vide juridique. Écoutons Seilie Okadi, épouse Komoué.
La grève n'est pas la solution dans la mesure où lorsqu'il n'y a pas de base légale, on ne peut pas appliquer une disposition qui n'existe pas. S'il y a un vide juridique, il faut pallier ce vide-là en prenant donc un test qui va permettre de prendre en compte la revendication propre. Et donc pour montrer la bonne foi de cette direction générale, pour dire qu'en fait le souci, le bien-être de ce personnel-là est aussi une préoccupation de cette direction, un projet de décret a été initié pour revoir le test qui prend en charge en compte tout ce qu'il y a comme indemnité et avantage au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire le décret 2013-470. Et des propositions ont été faites pour tenir compte, en guillemets, de ce qu'on appelle la précarité de ce personnel. La signature de ce décret la permettra donc de prendre en compte tout ce qu'il y a comme revendication.
Alors donc, à vous écouter, vous appelez donc à la patience, à mettre bas la terre.
Donc, il n'y a véritablement pas de raison valable pour que ce personnel-là puisse dire que oui, il n'a pas eu d'oreille attentive, alors que tous ces responsables des syndicats ont plusieurs fois été reçus par le directeur général de la décentralisation du développement local, qui ont été aussi reçus au niveau du cabinet. Donc, il serait bien d'attendre, de patienter, parce que tout est mis en œuvre pour que véritablement toutes leurs revendications soient prises en compte.
Vous venez de suivre Seilie Okadi, épouse Komoué, conseillère technique du directeur général de la décentralisation et du développement local, dans des propos recueillis par Aoussi Potin. À présent, direction d'Aloa, où s'est tenue la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La direction départementale de la santé a invité les communautés à éviter la stigmatisation et à accompagner les personnes atteintes. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Docteur Manouan Bilé, directeur départemental de la santé, explique les avancées et les défis en matière de lutte contre le VIH-Sida.
Nous avons la prévalence qui a baissé de 4,5 à 1,9. même temps un défi. On est toujours au-delà de 1%. Au niveau de la transmission mère-enfant, la discrimination et la stigmatisation fait que le malade laisse son traitement et malheureusement, quand l'enfant naît, l'enfant est contaminé alors qu'il pouvait naître sans VIH. On peut vivre correctement avec le VIH-Sida. Tous nos centres de santé font la prise en charge. Les médicaments, les soins sont gratuits. Si tu fais rien, il n'y a rien. Si tu es obligé de faire quelque chose, utilise le préservatif.
Katina Touré, président de la Commission régionale des droits de l'homme, a animé pour sa part une communication sur la loi portant prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire.
Si vous savez votre statut et que vous vous mettez à contaminer les gens autour de vous, vous risquez 10 ans jusqu'à la réclusion criminelle. Les agents de santé, les médecins et autres qui savent que vous portez le virus, tous ceux qui vont trahir ce secret professionnel sont également passibles de sanctions. La loi prévoit que nul ne doit être stigmatisé. Même si on vous refuse, par exemple, un boulot parce que vous êtes porteur du VIH, vous pouvez saisir le Conseil national des droits de l'homme, les tribunaux.
Les autorités politiques, administratives et les ONG ont demandé une implication plus forte des communautés afin d'éviter la stigmatisation et réduire le taux de prévalence du VIH-Sida dans le Haut-Sassandra et en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, d'Aloha, Radio de la Paix.
En ce qui concerne l'actualité sur le continent, au Sénégal, il faudra patienter encore pour savoir si l'opposant Ousmane Sonko pourra être candidat à la présidentielle de février prochain. Le tribunal de Dakar, qui depuis mardi 12 décembre examinait la légitimité ou non de sa radiation des listes électorales, a suspendu l'audience. Rendez-vous est donc pris pour jeudi 14 décembre pour connaître sa décision. Et pour tout savoir en ce qui concerne les titres de vos journaux, nous faisons place à présent à la revue des titres et c'est avec Jean-Claude Comé qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. S'il y a bien une formation politique qui occupe le devant de la scène de l'actualité ces derniers temps, c'est bien le PDC-RDA dont le porte-parole Brindoumé Smaïla était face à la presse hier et ce sont ces déclarations qui font la une de nombreux de nos confrères. Soir Info par exemple relaie cette mise au point du porte-parole du PDCI à propos des candidatures à la présidence du parti. Aucune des candidatures n'a été ni éliminée ni rejetée. Une précision que rapporte aussi Fraternité Matin, mais c'est une affirmation qui est contraire à la déclaration il y a quelques jours de Moïse Kakou-Gikaoué, le secrétaire exécutif en chef qui affirmait prendre acte de l'élimination de sa candidature à la présidence de son parti. Le Jour Plus, analysant cette situation, estime que le président intérimaire Koplé Boni et le secrétaire exécutif en chef Moïse Kakou-Gikaoué sont dans un dialogue de sourds, sentiment partagé par le Nouveau Réveil, journal réputé être proche du PDCI, qui parle lui aussi de dialogue de sourds au PDCI. Pour le matin, par cette déclaration du porte-parole Brindoumé Smaïla, le PDCI tenterait ainsi un rétropédalage à propos du cas Gikaoué. L'intendant d'Abidjan affiche que Koplé et Brindoumé créent la confusion et la peur à quelques jours du congrès. L'essor parle lui aussi de cacophonie totale au PDCI, cela 72 heures de son congrès extraordinaire. Et c'est dans cette ambiance que le matin annonce que Jean-Louis Billon et Thierry Tano, deux cadres du PDCI, dénoncent l'opacité du processus électoral. Le Nouveau Réveil, le matin, et l'intelligent d'Abidjan, également Soir Info, et eux aussi, les protestations de ces deux cadres. Au-delà du cas d'Ikaoué et des réserves de Billon et Thierry Tano, l'Inter nous informe aussi que le PDCI a profité pour répondre au RHDP, Brindoumé Smaïla, sur donc les déclarations de certains responsables du parti au pouvoir estiment que les propos tenus n'honorent guère leur parti et leurs fonctions. Il est aussi question d'élections dans d'autres formations politiques, notamment au PPACI, où la liste des candidates pour la présidence de la Ligue des femmes est connue depuis hier, annonce le quotidien d'Abidjan. Le Temps présente les trois candidates retenues. Et puis, à propos de la lutte contre les violences basées sur le genre, le gouvernement lève le carton rouge. C'est ce qu'annonce Fraternité Matin, qui indique qu'une campagne nationale de sensibilisation a été lancée hier. Et puis, football, CAN 2023, à un mois de la compétition, le Patriote annonce que la Côte d'Ivoire est prête et les Ivoiriens aussi. Le confrère affiche les différents stades et qui accueilleront les matchs. Merci et bonne journée à tous.
Merci Jean-Claude Comé pour cette revue des titres de nos journaux nationaux. Et c'est à présent l'heure de l'invité de la rédaction. Du 13 au 15 décembre 2023, se tiendra à Yamoussoukro un colloque international transdisciplinaire en vue de célébrer les anciens du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et ceux de l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain. Pour en savoir plus sur cet événement, Soro Adams a reçu pour vous professeur Diabaté Alassane, maître de conférence au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, qu'on écoute.
Bonjour professeur Diabaté Alassane.
Bonjour.
Ce colloque international transdisciplinaire, pour oui. faire quoi exactement?
Pour rendre hommage d'abord en la mémoire des anciens chercheurs et chercheurs décédés au département d'histoire. Et c'est aussi un hommage aux maîtres, à nos maîtres, nous autres, à la retraite, après de bons et loyaux services. Il s'agit donc d'une cérémonie qui va honorer nos aînés et maîtres qui ont mérité du département et de la nation pour avoir formé plusieurs générations d'étudiants. Donc, voici en fait le but de ce colloque-là.
Et combien sont-ils ceux qui seront célébrés, les anciens du département d'histoire de l'université?
Ils sont environ une vingtaine, des plus illustres aux plus anonymes, c'est-à-dire, je cite pêle-mêle, le professeur Ekanza, le professeur Jean-Noël Loukou, la professeure Henriette Diabaté, le professeur Ouattara Thiona, et j'en passe. Et puis pour ceux qui sont décédés, j'allais dire à la tâche pratiquement, puisqu'ils n'étaient pas à la retraite, il y a le professeur Kwasi Yao, il y a le professeur Topa, etc. Voilà, donc c'est ceux-là qui feront l'objet des célébrations, c'est-à-dire en réalité des plus illustres aux plus anonymes. C'est pour nous, nous les plus jeunes, un devoir de reconnaissance à leur égard. C'est pour ça justement que ce colloque a lieu.
Mais qui participera, qui prendra part à ce colloque de Yamoussoukro?
Ce colloque de Yamoussoukro verra la participation d'enseignants, chercheurs venus de divers horizons, d'abord en Côte d'Ivoire, de toutes les universités, ensuite d'universités sud-africaines, du Togo, de la Guinée, du Sénégal, etc. Donc au total, à peu près 100 participants qui vont justement être plus ou moins impliqués dans ce colloque-là.
Mais pourquoi ce thème « Ville et gouvernance à travers les époques » ?
Ce thème « Ville et gouvernance à travers les époques » pour aborder, j'allais dire, les problématiques, les questions en rapport avec l'évolution des villes d'hier à aujourd'hui. C'est ainsi que, autour de 8 axes, non exhaustifs bien sûr, ce colloque va se tenir. Et le premier axe a trait aux relations interpersonnelles. Le second va aborder les rapports entre les communautés dans la ville. Le troisième, la décentralisation. Le quatrième, les régimes politiques. Le cinquième, la gouvernance et les questions de corruption. Le sixième, la sécurité et l'insécurité. Le septième, les questions alimentaires. Et puis le huitième, ce seront des témoignages. Ce sera l'occasion pour des collègues de faire des témoignages. Voilà.
Témoignages sur quoi?
Témoignages sur la vie, justement, de nos maîtres.
Mais professeur Diabaté Alassane,
oui?
Où réside le lien entre
oui?
l'hommage à ces anciens et le thème retenu, ville et gouvernance?
En fait, c'est d'abord un hommage aux anciens, comme je l'ai dit, mais puisque nous sommes dans un cadre scientifique, et le lien qu'on trouve pour rendre hommage, c'est justement un colloque, et on a délibérément choisi ce thème-là pour rendre cet hommage. Donc au total, à peu près 81 communications, et pour à peu près 100 participants qui vont justement être plus ou moins impliqués dans ce colloque-là. Voilà.
Je vous remercie, professeur Diabaté Alassane.
Merci beaucoup, monsieur Soro. Merci bien.
Je rappelle que vous êtes
maître de conférence au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny.
Et c'est ici que prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Candidature à la présidence du PDCI RDA. Après la conférence de presse du candidat Maurice Kakou-Gikawe, la direction du parti n'a pas tardé à réagir par la voix de son porte-parole. Brédoumi Soumaïla Kouassi affirme qu'aucune candidature n'a été rejetée. Face à la menace de grève brandie par les agents des collectivités décentralisées, la Direction générale de la décentralisation et du développement local appelle à la retenue et à la patience. La conseillère technique du directeur général affirme que c'est un processus qui est en cours pour combler un vide juridique. Et au Sénégal, le tribunal reporte sa décision sur la légitimité ou non de la radiation d'Ousmane Sako des listes. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point d'actualité, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.
Hey, Koulouji, Chana.